vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour, alors qu'on se pose encore la question de savoir si Christopher Nolan va pouvoir sauver la saison estivale de cinéma, Cinérama continue de vous proposer une émission qui mêle blind test et chronique de films. On vous parlera de trois films en salle depuis le 29 juillet, deux comédies françaises bien différentes. Tout d'abord, Terrible Jungle, avec un duo improbable, Catherine Deneuve et Vincent de Dienne, et puis la comédie grinçante américaine The Climb, honorée à Cannes en 2019. Il restera un film sombre, dans un pays inondé de soleil quand même, c'est Tijuana Bible. Puis dernier film dont on vous parlera, le quatrième volet Deep Man, quatre films donc bien différents. Pour ce qui est des blind tests, on pourra jouer aujourd'hui avec la filmographie de deux réalisateurs, eux aussi bien différents. Il y aura le britannique Ken Loach, dont on connaît le penchant pour le cinéma social et politique, et le tout-terrain Ron Howard, capable de servir un thriller, un biopic ou un film d'action. On commence avec le réalisateur américain.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Capable de s'illustrer dans plusieurs genres, Ron Howard a réalisé près de 25 longs-métrages, cumulant plusieurs millions de spectateurs en France. Alors autant dire que ce blind test est à votre portée. On retourne dans les archives de Cinérama.
This is Cinérama.
Blind test avec la filmographie de Ron Howard, qui n'est pas tout à fait excellente. Mais voici donc un premier film facile.
On écrit l'information sur un papyrus que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, emplie de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise. Le vinaigre dissout le papyrus et le secret est perdu à jamais. Le seul moyen d'accéder à l'information est de composer le mot de passe au moyen de ces 5 bagues, comportant chacune 26 lettres. Soit 12 millions de possibilités.
Jamais rencontré de jeune fille aussi pointue en matière de cryptex.
Eh oui, et donc ça a été trouvé, Marine.
C'était Audrey Tautou là qu'on entendait,
bien sûr.
Qui parlait comme une enfant de 12 ans.
Oui.
Mais c'était Da Vinci Code.
Oui, j'ai cru que c'était les Goonies en me rappelant que c'était pas du
c'était
tout.
Pas lui. Non, c'est pas Ron Howard.
Ron Howard, mais Richard Donner.
Deuxième extrait de ce blind test.
Il faut revoir Adam Smith.
Mais de quoi est-ce que tu parles? Si on attaque tous la blonde. On se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun.
Mathématicien schizophrène, ça a été trouvé.
Un homme d'exception.
Voilà, tout à fait.
La théorie beau, de la blonde. Oui, cette théorie adaptée au concept de la drague, c'est très romantique.
Ben, il adapte Adam Smith à la drague, effectivement. Si personne ne va vers la blonde, alors à ce moment-là, on a toutes ses copines. Eh oui.
Hey. Ouais,
vous repartez pas sans rien en écoutant Cinérama. Troisième extrait.
Après 5 courses, comment ça va pour toi?
Très bien. Sauf un léger problème avec un rat autrichien et son équipe de tricheurs italiens qui m'ont ruiné ma bagnole.
De quoi est-ce que tu parles?
Je parle du Grand Prix d'Espagne que j'ai remporté.
Ouais, au volant d'une voiture illégale.
15,9 mm trop large, tu sais bien que ça n'a aucune incidence sur la vitesse. Et tu as contesté, tes avocats ont fait pression sur les autorités, on a été obligé de tout reprendre à zéro et la voiture est devenue un monstre.
Mais un monstre réglementaire.
Ton seul recours était de tricher.
C'est toi qui as une voiture illégale et c'est moi le tricheur? C'est vraiment tragique. La loi, c'est la loi.
Certes, et un rat sera toujours un rat. Merci, salut.
Eh oui, le bel anglais avec...
Et le machin allemand?
Non, autrichien. Niki Lauda, James Hunt, ça a été trouvé. C'est la saison 76 de Formule 1.
C'était Rush, un film que j'avais surprenamment beaucoup aimé.
Eh bien, c'était effectivement plutôt excellemment bien filmé et bien rendu, parce que c'était un championnat vraiment particulier. Quatrième extrait.
L'ESSEC sera placé sous le commandement de Georges Pollard.
qui descend d'une grande lignée de baleiniers. Il se trouve aussi que son père est notre affréteur.
Question de sang, monsieur Chase. Vous aurez beau avoir 1000 campagnes à votre actif, le sang aura toujours le dernier mot.
D'accord, mais ce n'est guère le sang qui remplira le navire d'huile, monsieur Mason. Pour commander, il faut se faire respecter. Et si les hommes n'ont aucun respect pour lui?
Ce sera à vous de faire en sorte qu'ils en aient. Oh,
je vous dis adieu, messieurs.
Je comprends votre déception. Alors, un 1/15 du produit net.
Ça fait beaucoup. Ça a été trouvé, Manu. Alors,
c'est au cœur de l'océan.
Oui, l'avant-dernier film de Ron Howard qui a été pas du tout un succès. Ça a même été un gros bide avec Chris Hemsworth et qui reprend l'histoire de Melville qui on raconte l'histoire de l'Essex qui donnera plus tard Moby Dick. Dernier extrait très facile.
Une fois qu'ils auront contourné la Lune, on allume le moteur du LEM, on produit une longue poussée, on prend le maximum d'élan et on les ramène aussi vite qu'on peut.
Jim, j'aimerais savoir ce que les mecs qui ont fabriqué le LEM en pensent.
On ne peut absolument rien garantir. Le LEM a été conçu pour se poser sur la Lune, pas pour faire des corrections de trajectoire.
Je sais bien. Mais on va pas se poser sur la Lune, malheureusement. Je me fiche de savoir pourquoi sont conçues les choses. C'est ce qu'elles peuvent faire qui compte.
Alors, ça a été effectivement trouvé parce que c'était facile.
C'était Apollo 13, évidemment.
Voilà. Film plutôt apprécié par les Américains, ça c'est sûr, puisque c'est leur histoire
spatiale.
Je n'en
ai aucun souvenir.
Et qui a été plutôt un gros succès, je crois, de Ron Howard.
De ses plus gros succès, ouais. Je pense.
This is Cinerama.
Si Ron Howard est capable de s'illustrer dans le fantastique, le film historique, le thriller, le biopic ou la comédie, ce n'est pas le cas de Ken Loach. Le réalisateur britannique s'illustre sur le terrain du cinéma social et politique. On retourne une nouvelle fois dans les archives de l'émission pour vous proposer 5 extraits de films dont il faut deviner le titre.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Ça n'a pas été facile finalement de choisir des extraits. On écoute tout de même le premier. Jouez avec nous.
J'aurais pu travailler quelques jours par-ci, par-là. Mais maintenant, tout est râpé.
Écoute, il n'y a aucune loi qui dit qu'il lui faut une nouvelle robe.
Moi, je le dis.
Le père Barry ne dira rien.
Je me fous du père Barry.
Elle a sa robe de l'année dernière, elle sera très bien.
Oh, je vois, c'est super, elle sera comme une pauvre et les autres sont super sapés.
Elle sera pas comme une pauvre, n'exagère pas.
Écoute, toi, t'en as une robe de communion.
Oui,
Bien, je t'assure que Colin en aura une aussi. Je sais pas le temps que ça va prendre ou ce que je vais faire. C'est dans combien de temps?
Dans 6 semaines.
Bien, elle aura sa robe.
Mais comment?
J'en sais encore rien.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
C'est Raining Stone, qui est aussi l'un de ses meilleurs films, à mon avis.
Film de 93. Tous les films sont situés après les années 90. Deuxième extrait.
Le jour où j'ai vu McGowan au pub, il a dit à Liam de choisir. Solution numéro 1, il rembourse le fric. Problème, il n'a pas un rond. Solution numéro 2, il met Sabine sur le trottoir. Et c'est pas comme ça qu'elle arrêtera de se défoncer. Dernière solution, il lui casse les deux jambes. Et il aurait fallu que je le laisse faire. Je pouvais pas me défiler. J'étais là. McGowan m'a proposé un petit boulot. Pour payer les dettes de Liam.
Quel boulot?
Aller chercher une voiture. La semaine prochaine, je vais en chercher une autre. Et basta. C'est fini.
Une dette de 2000 livres effacée. En convoyant simplement deux voitures.
Hein?
Il y avait quoi dans la voiture?
Un dilemme qui, donc voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais voilà, il a exposé la situation, ça pourrait l'empêcher de poursuivre son histoire d'amour, c'est...
My name is Joe.
Bravo, 1998 pour ce film. Un nouvel extrait.
Je pars en Espagne.
Comme ça, tu décides d'aller en Espagne?
Oui, ça fait longtemps que j'y pense. Bah, je sais que ce sera pas facile, mais j'essaierai d'atteindre Barcelone et puis de là, j'aviserai.
Mais pourquoi toi? Pourquoi toi, Dave?
Parce que j'y crois. Et que je laisse rien derrière moi. C'est vrai, à quoi je sers? Je suis un pauvre mec qui touche des allocations. On est des milliers, dans ce cas, sans travail. Je
mais
passe
enfin,
mon temps
mais...
à manifester, à faire des marches
mais
contre la faim.
On est ensemble, je sais
mais
bien.
C'est pas assez. Je vais en faire plus, moi.
Alors fais-le ici.
Nous devons agir. Nous devons agir tout de suite. Parce que si nous refusons de nous battre aux côtés de nos frères, on n'a aucun avenir.
Et si je te perdais?
Alors, ça a été trouvé et indice, c'était facile, l'Espagne.
Bah, et donc, c'est London Freedom.
Film de 95, un nouvel extrait.
Angie.
Tu vas bien?
Super, mon cœur. Ouais, t'es ravissante.
T'as pas changé, toi, c'est vrai.
Ça, tu peux le dire, putain.
Et alors, tu vas bien?
Ah, c'est un peu chiant.
Ah ouais?
Ouais, ces enfoirés de nouveaux Polacs, ils commencent à m'emmerder. C'est vrai, j'aimais bien mieux les ouvriers d'avant. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune plainte, et ils fermaient leur gueule et ils se contentaient de travailler. Là, ils ont leurs petits papiers, ils foutent rien et ils jouent au chef.
Écoute, Tony, t'inquiète pas, d'accord? On va t'arranger tout ça.
Ouais?
Oui, on te fera
super,
un bon
prix. C'est super. C'est pour ça que je t'ai appelé, chérie. Ouais.
Pas de problème. Tu me feras un chèque?
Ouais.
Ouais?
Ouais, je te fais un chèque.
Laisse-le en blanc.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'apprends vite, toi, chérie.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Film de 2008 sur les, sur les travailleurs immigrés.
Non, parce que le vent se lève.
Non,
mais non, c'est pas le vent se lève. Mais enfin, il parle d'immigration polonaise, mais Manu,
it's
n'importe quoi.
It's a free world.
Ah oui, voilà. Voilà, mais c'est ce que je disais, en fait.
Ce que... Alors, nous t'adressons un demi-point pour cela. Dernier extrait, c'est encore facile. Gros indice.
Irwin est contre Spurs, c'est ça? Magnifique.
Je savais qu'il était malin, qu'il jouait des deux pieds. Ça a été un flash. J'ai frappé de l'extérieur du pied. Ça a surpris tout le monde. Il a réceptionné et mon cœur a bondi.
Un cadeau.
Ouais, comme une offrande au grand dieu du football.
Et s'il l'avait loupé?
Il faut faire confiance à ses coéquipiers. Toujours. On n'est rien sans eux.
Ça a dû être super dur quand tu t'es fait suspendre. 9 mois, les salopards. Ce con avait eu ce qu'il méritait.
J'ai dû prendre sur moi, tu sais. Elle est vraiment louée. Il me fallait quelque chose pour remplir le vide quand je me sentais seul. Un but, un truc qui m'aide à tenir.
C'est drôle, tu sais. On oublie quelquefois que tu n'es qu'un homme.
Je ne suis pas un homme. Je suis Cantona.
Eh oui, gros indice. Donc, ça a été trouvé, Manu.
Eh bien, c'est Looking for Eric. Voilà. J'allais oublier le titre. J'allais dire Looking for Richard, mais...
Non. Film de 2009. Ainsi s'achève ce blind test sur l'anglais Ken Loach.
This is Cinerama.
Ainsi s'achève la séquence de blind test. On referme les archives et on entame la partie actualité de l'émission avec Terrible Jungle, une comédie absurde avec Vincent Dedienne et Catherine Deneuve.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinerama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Je devais rencontrer le chef des Autopies.
C'est moi.
Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer.
Ces premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir,
oh, mais ils sont mignonnes les deux.
Il noue des liens avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis.
Avec Terrible Jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli, on a plusieurs occasions de se réjouir. Alors d'une part, c'est une comédie qui n'est pas habituelle dans le cinéma français. Elle convoque l'absurde, la fantaisie, la noirceur, sans oublier un esprit potache. Et d'autre part, eh bien, cette comédie est incarnée par des comédiens qu'on n'aurait jamais cru voir ensemble. D'un côté, un phénomène de la télé et du stand-up, l'excellent Vincent Dedienne, et d'autre part, Catherine Deneuve. Alors autant dire qu'il y a le novice dont c'est le premier grand rôle, et puis celle qui reste sans doute la plus grande star actuelle du cinéma français. Alors, chose amusante, on a affaire ici à deux personnes dont le phrasé est rapide. Et puis, on va ajouter une dernière réjouissance, un produit de la télé qui fait des éclats au cinéma, c'est Jonathan Cohen, qui, de Serge le Mytho sur Canal+, devient un lieutenant-colonel de gendarmerie sans envergure, mais forcément drôle.
Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les...
Autopies.
Les Autopies. Donc, vous savez où il est?
Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines.
Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu.
Dans Terrible Jungle, on suit Elliot, incarné par Vincent Dedienne. Il fuit sa mère, Catherine Deneuve, qui incarne Chantal de Bélabre, une star de l'anthropologie qui a tendance à écraser le fiston. Elliot, le fils, part à la recherche des Autopies qui vivent en Amazonie, dans une région à la périphérie de la Guyane. Tel Tintin, le jeune chercheur arrive en terre guyanaise avec les meilleures intentions.
Votre nom, c'est ?
Ignace.
Ignace ? Racontez-moi un peu, comment ça se passe là pour trouver de l'or?
Tu prends de la terre, tu rajoutes du mercure dedans.
Ah, extrêmement polluant, hein, ça.
Et tu la laves.
À main nue. Vous lavez le mercure à main nue.
Ah, pas de problème, ça.
Voilà Elliot qui doit revoir une fois de plus le mythe du bon sauvage. La tribu qu'il étudie est à la main d'un homme véreux qui les fait chercher de l'or pour son seul profit. À la tête de cette tribu des Autopies, une femme incarnée par Alice Belaïdi, dont on apprendra la triste histoire. Au premier abord distante, elle va peu à peu accorder du crédit à ce jeune anthropologue qui lui, eh bien, va gagner en assurance. Mais, il ne restera pas tranquille. Non seulement cette aventure n'est pas sans risque parce que le chercheur dérègle au sein de cette petite communauté, mais il aura
croit aussi affaire à sa mère. Alors celle-ci, ne faisant jamais confiance à son fils, croit qu'il court un danger et part à sa recherche. Mais elle n'est pas aidée. En guise de secours, elle va trouver la gendarmerie nationale. C'est là qu'intervient Jonathan Cohen en lieutenant-colonel Raspaillès. Il est à la tête d'une unité qui préfère le billard à la forêt tropicale. Rien ne va être facile dans cette quête.
Ôtez vos sales pattes de mon chemisier, enfin! C'est du lin irlandais!
Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche! Je fais des petites boules avec, je prends un petit bâton et je me le fous dans l'oreille et je me la récure. Est-ce que vous m'avez compris?
Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices.
La comédie de ce duo de réalisateurs, dont c'est le premier film, a quelque chose d'absurde et de loufoque qui pourrait faire penser aux comédies des années 70, l'irrévérence en moins. Mais le portrait qui est fait de cette tribu a de quoi surprendre. Elle n'a plus rien de sauvage tant elle est imprégnée de junk food, de télé, de drogue et constamment alimentée par une épicerie tenue par des Chinois. Le personnage de Vincent de Dienne est un homme qui se transforme à son contact, qui s'émancipe en fuyant Oedipe et puis sa mère de neuf s'impose dans un registre d'arrogance dans une jungle qui n'est finalement pas si envahissante. Les réalisateurs en ont fait un décor mais n'ont pas surjoué la difficulté d'y vivre. Il y a du plaisir à regarder cette comédie qui chemine autant vers l'absurde que la satire. Un soin particulier est apporté aux situations, évidemment, mais aussi au dialogue dont on retient quelques saillies. Si la partition jouée par Vincent de Dienne peut faire rire, toujours un peu à distance, celle jouée par Jonathan Cohen avec son rôle de chef de gendarmerie décalé a quelque chose de plus absurde, de plus assumé dans la surenchère de situations improbables et offre, eh bien, une caricature des forces de l'ordre irrésistible. Ces deux personnages, avec Catherine Deneuve en bourgeoise castratrice, tout cela au milieu de la forêt tropicale, eh bien, ont de quoi ravir.
Les Otopies consomment en abondance une substance étrange. Ils l'appellent la punka.
Y a quoi au juste, dis donc ?
C'est très bon. Tu prends ce médicament, le mélange de gasoil et décapant pour métaux. T'ajoutes le solvant, un peu, tu verses ton déboucheur. Attention, c'est chaud. Chaud de vin et la cocaïne. Tout le pot. Et donc là, on a une poudre rouge. Si c'est jaune, c'est très très toxique.
Eh ben, aïe là alors, parce que c'est un peu jaune, non ?
Non, non, pas du tout. À la base, c'est une recette brésilienne. J'ai un peu amélioré avec des produits locaux, quoi.
Terrible jungle est en salle depuis le 29 juillet. La saga martiale Ip Man en est à son quatrième opus. Guillaume nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Il est temps d'accueillir Monsieur Bruce Lee.
Bruce veut permettre aux arts martiaux chinois de se démocratiser.
Wilson Yip clôture la saga Ip Man avec cette nouvelle aventure, la première à bénéficier d'une exploitation en salle en France et la dernière de quatre films consacrés au personnage éponyme. Donc une petite piqûre de rappel s'impose. Ip Man, c'est l'un des grands maîtres chinois dans l'art du Wing Chun, et a été rendu célèbre par le fait qu'il a été le maître de Bruce Lee. Et bien justement, de Bruce Lee, il en sera question dans ce volet qui voit Ip Man venir en Amérique pour essayer de trouver une école pour son fils. Sur place, il va devoir régler un conflit entre la communauté asiatique et plusieurs locaux bien déterminés à repousser ce qu'il considère comme étant une invasion.
Vous êtes en terre étrangère, monsieur. Croyez-moi, si vous viviez ici, vous comprendriez.
Si le traitement de Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino vous avait laissé un arrière-goût désagréable en bouche, eh bien pensez qu'ici, il retrouve toute sa superbe. S'il n'apparaît véritablement que le temps d'une grosse séquence, son impact sur l'intrigue est néanmoins très fort, car c'est lui qui est à l'origine de la grogne de la communauté chinoise de Chinatown quant à la démocratisation du kung-fu en Amérique. Mais même si on sent que cette séquence est purement gratuite, elle est hautement jouissive, car c'est l'occasion pour Wilson Yip de filmer une énorme scène de combat de rue tout entière dédiée à la gloire du petit dragon. Yip est aidé en cela par le légendaire chorégraphe Yuen Wuping, superstar dans son pays et qui s'était rendu célèbre à l'international pour son travail dans les scènes d'action de Matrix ou encore Kill Bill. Alors cette glorification de Bruce Lee ou même d'Ip Man n'a rien d'étonnant dans le cadre du cinéma chinois actuel, qui est depuis presque 20 ans redevenu très nationaliste. Il est d'usage commun d'y promouvoir une image très conquérante de la Chine, quitte à réécrire l'histoire. Alors même si on sait que toute œuvre de fiction prend ses distances avec la réalité historique, c'est parfois à double tranchant pour un film comme Ip Man 4. D'un côté, on s'éclate franchement à retrouver tout ce qui faisait le sel des vieux films de Kung-Fu, avec cette figure inaltérable et droite qui se bat pour ses principes et ses idéaux. Et de l'autre, on peut grincer des dents ou franchement sourire quand on voit le portrait caricatural fait des Américains, hostile aux traditions chinoises. À part le personnage d'un Afro-Américain ancien élève de Bruce Lee, tout ce qui n'est pas chinois pur jus est invariablement idiot, grossier, calculateur, raciste et d'une violence sans commune mesure. Si le discours développé par le film est très intéressant, donc c'est à savoir comment opérer une intégration réussie dans un pays étranger et s'épanouir sans renier ses racines, son résultat, lui, se trouve invariablement réglé par des bastons face à des montagnes de muscles binaires. Le pompon est remporté par le grand méchant du film, un militaire joué par l'acteur et athlète Scott Adkins, qui ne desserre les mâchoires que pour mieux bander ses muscles et insulter tout ce qui n'est pas Yankee quand il n'est pas occupé à le massacrer à coups de poing.
C'est ça votre kung-fu chinois ?
Que s'est-il passé ? Face à l'injustice, je ne peux pas ne rien faire.
Aucune règle. On se bat jusqu'au chaos.
Ce manichéisme est paradoxalement bénéfique pour le film car, ben, il faut bien le dire, il est extrêmement satisfaisant d'avoir un méchant très 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 méchant contre qui se liguer. Ici, Adkins est aussi drôle qu'impressionnant de malversation et doit payer au prix fort sa haine de l'autre dans un final dantesque. On peut clairement dire que ce quatrième volet d'une saga nous en rappelle un autre, l'inénarrable Rocky IV de Sylvester Stallone où l'Est rencontre l'Ouest dans un déluge de testostérone aussi grotesque que spectaculaire. Dans les deux cas, on y apprend grâce à la caricature poussée à l'extrême et au nombre de codes pétés que la violence, bah c'est pas bien, que l'autre n'est pas forcément un ennemi et qu'il faut croire en soi pour que les autres nous respectent. Pour les amateurs de spectacles naïfs, cela marche sans aucun problème et on en ressort avec une patate énorme. Un bon point pour les retardataires. Vous n'aurez pas besoin de voir les trois autres volets pour pleinement apprécier celui-là. Parce qu'à la manière d'un chapitre spécifique du parcours de son personnage, son intrigue elle est indépendante des autres et il n'y aura pas de difficultés ou d'informations manquantes qui vont perturber le visionnage. À ne pas manquer, car ce genre est décidément très rare sur nos écrans et en plus, c'est vraiment enthousiasmant car c'est très très bien emballé. On en profite pour rappeler à tous ceux qui voudraient en voir plus sur le même sujet que Wong Kar-wai avait consacré lui aussi un film à Ip Man en 2013. Il s'appelait The Grandmaster et avait même concouru, excusez du peu, pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Donc vous êtes enseignant, vous aussi?
J'enseigne le kung-fu chinois.
C'est de la gymnastique?
Yeah. Oui, en quelque sorte.
Ip Man 4 est en salle depuis le 22 juillet. On revient à la comédie avec cette fois-ci un étonnant long métrage américain de Climb.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Le festival de Cannes 2020 n'a pas eu lieu, mais tous les films de l'édition 2019 n'ont pas encore été distribués. La preuve avec The Climb de Michael Angelo Covino, coup de cœur du jury de la section Un certain regard. Une comédie précieuse, fine et grinçante qui met en scène deux amis inséparables malgré les épreuves. Une histoire qui s'étale sur plusieurs années et qui est découpée en plusieurs chapitres, nous promenant dans le temps. Le film commence sur les pentes du col de Vence. On suit Kyle et Mike, deux amis au tempérament et au physique bien différents, qui font du vélo avec ce qu'il faut de tenue moulante. Ils discutent autant qu'ils pédalent, et tandis que Kyle parle de son futur mariage, son ami Mike lui annonce qu'il a couché avec la future épouse. S'ensuit une échappée qui sera à l'avantage du coupable, plus affûté physiquement. Voilà l'introduction de The Climb, la montée, ou le cyclisme avec ses montées et descente s'affiche comme une métaphore de l'amitié. Dans cette relation, il faut tout de même un équilibre. Si Mike peut être ombrageux, imprévisible et individualiste, son meilleur ami, lui, est compatissant, s'accommode des excès et recolle les morceaux, quoi qu'il arrive. Deux personnages bien différents, qui permettent au scénario de jouer sur les ascensions et les replats, d'entamer des sprints, des remontées, ou au contraire de jouer le jeu du peloton. Durant les 7 chapitres que compte le film, peut-être comprend-on un peu mieux ce qui unit les deux hommes malgré l'adversité et les années. Deux Américains excessivement romantiques dès lors qu'il s'agit de femmes, raconte le réalisateur. Alors parsemé d'ironie, de renversements et de vraies scènes burlesques, The Climb est une réussite. On passe des pentes du sud de la France à une station de ski pour rejoindre une soirée de Thanksgiving improbable, de la pêche à la ligne sur un lac gelé ou encore un enterrement. Il n'y a vraiment aucune fausse note pour cette comédie subtile remarquée à Cannes et prix du jury à Deauville en 2019. Alors elle aurait pu sortir durant le Tour de France, mais le Covid en a décidé autrement. Les deux comédiens auteurs se sont fendus d'un teaser spécial pour la France que je vous recommande.
July 29th in France, en français. I don't even know how to say that. Le 29 juillet en France. Okay. Le 29 juillet en France.
On termine cette émission avec sans doute la plus petite sortie du 29 juillet, Tijuana Bible, réalisée par le français Jean-Charles Hue au Mexique.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
You can speak to the fucking dead.
Après la BM du Seigneur et Mange tes morts, qui étaient tous les deux déplongés dans l'univers des gens du voyage, c'est donc au tour de leur réalisateur de voyager. Pour sa troisième œuvre de fiction, le français Jean-Charles Hue passe le cap du long métrage tourné en langue étrangère et il fait ici escale à Tijuana. Donc un Tijuana présent dès le titre, un Tijuana Bible, et qui sera omniprésent à l'écran. On y suit le périple d'Anna, hein, une jeune femme qui vient chercher son frère Ricardo, un soldat américain vétéran d'Irak. Elle a perdu sa trace depuis un certain moment et s'inquiète de son absence de nouvelles préoccupantes. Elle va très vite rencontrer Nick, un autre vétéran, qui va la prendre bon gré mal gré sous son aile pour la guider dans ce lieu dangereux et l'aider dans sa quête. Le problème est qu'il se frotte à Topo, un caïd local très violent et qui n'aura aucun intérêt à la voir réussir dans sa mission. Nick, joué par Paul Anderson de la série Peaky Blinders, est un anti-héros atypique qui ressemble à une version malingre, voire décharnée de Kevin Janssen, le grand méchant de Revenge de Coralie Farja. Cet ancien Marines a sombré dans la drogue et on comprend qu'il a passé un moment particulièrement douloureux sur le champ de bataille, au point qu'il se crispe en entendant une simple marche militaire dans la rue. Le choix est esthétiquement intéressant car il a la peau très blanche et roux, ce qui détonne dans une population à la peau mate et aux cheveux foncés. Il donne constamment l'impression d'être en décalage avec les couleurs locales, malgré le fait qu'il connaisse la ville sur le bout de ses doigts et de ses vis. Le réalisateur joue d'ailleurs avec la lumière qui se reflète sur lui ou qui le fuit lorsqu'il se réfugie dans le clair-obscur de sa chambre miteuse pour se droguer. La drogue d'ailleurs est à l'origine d'une scène semi-onirique particulièrement touchante. Alors que Nick est en train de planer, un faisceau de lumière vient éclairer le mur à côté de lui. Quelqu'un projette un film qui va captiver Nick au point de s'émerveiller d'avoir des images du film se superposant sur son corps. Pour quelqu'un qui dit que Dieu serait incapable de situer Tijuana sur une carte, la réalisation offre à son personnage un moment de poésie bienvenue dans ce monde aride et impitoyable pour les faibles. La relation entre Nick et Anna est elle aussi intéressante. Alors qu'on pourrait se dire que c'est Nick, hein, le blanc qui est l'étranger, il est parfaitement bien intégré dans les mécanismes souvent louches des bas-fonds de la ville. Anna, la mexicaine, c'est la vraie étrangère qui se découvre en envers du décor sordide pour les habitants, comme pour tous les vétérans expulsés qui viennent chercher ici un lieu de chute. L'alliance fait penser à un autre duo fort, celui du chef-d'œuvre Lone Star de John Sayles, sauf que Tijuana Bible, lui, il joue sur une autre corde, celle de la spiritualité qui lui confère un léger accent fantastique. Lorsque Anna rencontre Topo, elle remarque ses larmes tatouées sur sa joue et elle lui dit que cela ne le sauvera pas de l'enfer qui l'attend. Topo, lui, croit fermement qu'elle peut parler aux morts et c'est pour cela qu'il veut s'en débarrasser. Ricardo, le frère, se dit sauveur d'âme et que si on s'en prend en lui, on déclare la guerre à Dieu. Les questions existentielles et la rédemption de tous passent par ce rapport au divin qui pèse sur leur destinée et leur salut se jouera en fonction de leur dévotion. Le terme même de Tijuana Bible est à double sens. Outre l'aspect religieux, le réalisateur reprend un terme issu d'une littérature bien spécifique pour nommer son film. Les Bibles de Tijuana sont des petites bandes dessinées underground pornographiques à tendance exotique qui connurent leur âge d'or entre les années 20 et 50. Elles se basaient généralement sur le détournement de figures connues pour les placer dans des positions scabreuses. On retrouve cette inversion crue dans les personnages de Nick et d'Anna, le blanc avisé à l'étranger et la mexicaine dépaysée sur la terre de ses racines. À la manière des Bibles de Tijuana, on prend des personnages connus, donc ici nos deux clichés du polar, et on les retourne pour exposer des situations dérangeantes. Sauf qu'ici, c'est bien pour le spectateur que ça l'est particulièrement. L'obscénité des situations et des destinées n'a rien d'attirant, elle remet en contexte la réalité de la misère dans des endroits, comme le dit Nick, oubliés de Dieu, mais aussi de leur gouvernement. Cette ambiguïté, exotisme et sordide, résume bien les facettes étudiées par Jean-Charles Hue dans cette quête d'un rayon de soleil véritablement chaleureux. Il vous convie à un voyage qui va vous coûter plus que le simple billet d'aller.
Ya sé por qué mi hermano no me dijo nada. Le dio vergüenza.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
Ainsi s'achève Cinérama, on se retrouve la semaine prochaine, on jouera au Blind Test, bien évidemment, puis on chroniquera une partie des films sur les écrans, car il y en a encore, profitez-en.
This is Cinérama.